Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, enfin, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, on avance doucement mais sûrement. C'est ainsi que le coach Digard résume la situation à mi-chemin d'un mois d'avril décisif pour le maintien en Ligue 1. Un point pris face à Nice dimanche dernier, une semaine après le point glané face à Auxerre. Et toujours ce matelas de 5 unités qui sépare le Havre des actuels barragistes. Pour évoquer ces dernières rencontres et surtout la suite, Angers ce week-end, Metz à la fin du mois, je suis comme toujours en compagnie de Mathieu Billot, journaliste pour Foot Normand. Salut.
Salut à tous.
Et face à nous cette semaine, celui qui occupe le rôle stratégique de capot en tribune COP, vous entendez sa voix résonner partout dans le stade, Mehdi Dupuis. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous.
Et à vos côtés, une autre voix du hack, ancien speaker et toujours supporter attentif des Ciel et Marines, Pierre Pissavi, bonjour.
Bonjour Célia, bonjour à tous.
On fait le bilan ensemble de ce match face à Nice, marqué par le premier but d'Ali Samata, les prochaines échéances sur le terrain, mais aussi le départ annoncé du capitaine Haruna Sanganté. C'est parti pour le débrief 100% hack, saison 2, épisode 15.
Le foot, c'est pas que des buts, c'est une alchimie entre les joueurs, c'est un équilibre entre les joueurs. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui, Maître Ali me permettait facilement de m'adapter tactiquement et de proposer différentes choses avec la complémentarité des joueurs offensifs. Donc c'est beaucoup plus de réflexion que des simples statistiques. Surtout quand on a nos finances, il ne faut pas rêver. L'attaquant à 25 buts, on va encore attendre un petit peu.
Voilà, 25 buts, on en est loin, mais enfin un pour Ali Samata, l'attaquant tanzanien du HAC que l'on annonçait à son arrivée comme l'un des hommes forts de la saison et dont les performances laissaient, on va dire, peut-être un goût de trop peu, pour être poli à certains. Tout vient à point qui sait attendre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de voir Samata enfin marqué? Je me tourne vers Mehdi peut-être.
Bah, c'est vrai que dans son rôle d'attaquant, quand on marque pas, bah, je pense qu'on peut perdre un peu confiance. Mais là, ce but-là, j'espère qu'il va lui faire du bien parce que ouais, dans ce rôle, on a besoin d'un gars qui nous met des buts.
Oui, c'est on va dire le fait du match face à Nice. En tout cas, un avis aussi, Pierre, là-dessus, sur enfin voir le compteur se débloquer.
Bah, de l'avis de Mehdi, forcément, je crois qu'on était plus d'un à ne plus trop y croire, pour être très très honnête. Effectivement, en attaquant, on sait comment ça marche à la confiance. Moins tu marques et plus tu la perds, cette confiance. Donc évidemment, on a besoin de buts en cette fin de saison, donc on espère effectivement que ça débloquera un petit peu la situation pour lui.
C'est un but qui vaut cher, du coup.
C'est un but qui vaut cher, ouais,
parce que c'est un but qui permet, de, entre autres, de rapporter un point de Nice, un point précieux. Comment on l'a vécu ce match contre, on rappelle, hein, ça peut paraître bizarre, mais contre Nice, un concurrent direct pour le maintien.
Ouais, parce que on fait vraiment des prévisions en début de saison qui sont pas forcément.
Bah, j'écoutais sur une autre radio, et c'est vrai que c'était drôle comme le foot va vite, que Nice avait fait les barrages de qualification pour la Ligue des Champions
ouais,
au mois d'août.
Ouais.
8 mois plus tard, on en est bien loin. Je sais pas, Mehdi, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que ce point à Nice, c'est un bon point, c'est une bonne performance?
Bah, au vu de la première mi-temps, je croyais fortement aux 3 points. Je me suis dit, franchement, on est dominé assez franchement. Après, sur la deuxième mi-temps, bah, Nice s'est réveillé, mais c'est aussi là qu'on voit qu'il y a un effectif à Nice qui est conséquent aussi. C'est pas les mêmes budgets et là on le voit. Mais bon, je pense que c'est un bon point de prix. Moi, de prendre un point à Nice, c'est en début de saison, je pense qu'on aurait tous signé pour prendre un point à Nice.
Un point, Pierre, qu'il faut mettre aussi en corrélation avec le résultat d'Auxerre Nantes la veille, qui avait fait 0-0 et donc du coup qui maintient Auxerre, qui est aujourd'hui la principale menace pour le Havre, hein, sur la place de barragiste, pour le maintien, on va dire, pour la relégation directe. Je pense que c'est un scénario qui fait plus partie
Ce serait un scénario catastrophe.
Je sais que les supporters, vous êtes prudents, mais voilà. 10 points à 5 journées de la fin avec un FC Nantes qui avance pas.
Tant que mathématiquement c'est pas fait, voilà. Tant que mathématiquement c'est pas fait, effectivement ça peut toujours arriver. Effectivement, on s'en éloigne en tout cas de plus en plus. Comment on l'a vécu ce match, je pense tendu comme tous les matchs là jusqu'à la fin de la saison. On a vu que que Nice, c'était très tendu aussi. Voilà, c'était un match très haché, beaucoup de fautes de part et d'autre. Je pense qu'ils avaient plus la pression que nous. Hein. Comme le disait le coach avant le match, ils sont pas préparés à ça, à essayer de lutter jusqu'à la fin pour le maintien. Ce match, il a montré qu'on va vendre clairement chèrement notre peau jusqu'à la fin de la saison. Même si effectivement on peut être déçu du match nul, en tout cas c'est un point qui nous fait avancer et qui nous rapproche de l'objectif.
Comment vous la vivez la période actuelle? Je reviendrai après peut-être juste sur l'objectif maintien, mais bon, c'est vrai que là il y a une disette, on va dire, de victoires, hein. Je crois que c'est 3 points sur les 21 derniers possibles depuis la victoire contre Toulouse à la mi-février, si je me trompe pas, ce qui avait donné cette jusqu'à mi-février, hein, jusqu'à 9 points d'avance, hein, je crois, sur la JOCR et le barragiste. Est-ce que là on est un petit peu, en tant que supporter, un petit peu frustré, un petit peu tendu? Est-ce qu'on a peur, je crois qu'on l'évoquait dans une émission précédente, que un scénario un peu catastrophe comme il s'était passé
2002-2003
se reproduit? C'est quoi un petit peu l'état d'esprit, Mehdi, vous qui êtes au cœur de la tribune, c'est quoi un petit peu ce qui anime les supporters du HAC?
Bah franchement, pour être honnête, au sein de notre groupe, on est assez confiant. Enfin, cette année, j'ai pas vu une équipe qui nous a vraiment surclassé. Après, c'est vrai qu'en ce moment, on est en train un petit peu de marquer le pas, mais faut aussi regarder les derniers matchs. On a joué des grosses écuries, hein. On a joué Lyon, on a joué le PSG, on a joué Toulouse, on gagne à 10 contre 11 à la maison. Donc après, faut rester à notre place aussi. On est le Havre et franchement, tous les points qu'on glane, bah c'est des points, voilà, qui nous rapprochent du maintien. Et nous on est optimistes et voilà, on sait que derrière c'est pas très loin, mais on sait qu'à la maison on est capable de tout, puis d'aller gratter des points à l'extérieur. Donc voilà, non, on reste vachement confiant.
Un peu moins confiant que Mehdi. Bon, après c'est ma nature, hein. Je suis toujours un petit peu pessimiste. Je passe mon temps à regarder les matchs des autres. Voilà, le week-end plus que les nôtres d'ailleurs. À me féliciter quand ils prennent pas de points.
Le match nul.
Normal.
Le match nul. Oui, Auxerre Nantes, voilà. nous arrange évidemment. Nice Le Havre, c'était aussi, c'était le match qui était juste au-dessus, hein, dans le classement. Donc c'était aussi un match tendu, plus tendu, oui, parce que je me demande où on va prendre des points sur cette fin de saison. Je regarde les calendriers aussi de nos concurrents. Je me demande où ils peuvent prendre des points sur cette fin de saison. Je trouve pas qu'il y ait de calendrier là sur Auxerre, Nice et nous. Je trouve pas qu'il y ait de calendrier plus facile. Ça va se battre jusqu'au bout. Nous, faut qu'on essaye de terminer le boulot le plus rapidement possible. Et après, on a une tradition un petit peu au WAC, hein, c'est quand on a toutes les cartes entre les mains qu'on a du mal justement à passer le pas. Donc là, ce serait bien qu'on dès la semaine prochaine, qu'on essaie vraiment de mettre un grand coup dans la course au maintien.
Alors je sais que ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui, déplacement à Angers pour le HAC, puis réception de Metz. Du côté d'Auxerre, c'est un match à Monaco et à Lyon, c'est deux matchs à l'extérieur. Donc on peut se dire finalement et Nice va à l'extérieur à Lille et ensuite va à l'OM après avoir joué en Coupe de France en plus, donc on peut se dire quand même que alors même si Mathieu va toujours me dire faut pas regarder le papier et puis
ouais, et je pense que ce serait une grande erreur de croire qu'on a un calendrier plus facile que nos concurrents. On l'a vu cette saison, les équipes contre lesquelles on a été le moins à l'aise, c'est les équipes justement de bas de tableau contre lesquelles on doit se battre pour le maintien. Donc Angers c'est pratiquement fait, c'est même fait pour eux, hein, ils sont maintenus.
Ouais, 33,
donc
ouais.
On espère qu'ils viendront en tong au stade samedi. Metz qui voudra vendre clairement sa peau aussi, hein, même s'ils sont pratiquement relégués, c'est pratiquement une certitude. Je pense qu'ils voudront sortir quand même un peu avec les honneurs de ce championnat. Je ne vois pas trop prendre de points face à Lille et Marseille. Et puis j'imagine que Lorient voudra faire la fête chez lui pour son dernier match à domicile après une saison extraordinaire. Donc j'ai du mal à nous voir prendre des points là-bas. Donc j'estime là qu'il nous reste 6 points à aller chercher. Et sur ces deux prochains matchs, il faudra pas se louper.
Mais dis-vous, je vois accueillir ces...
Je suis l'avis de Pierre. Mais après, on sait que le Havre est imprévisible. Le Havre est capable d'aller prendre des points partout. Donc voilà, c'est vrai que ces matchs, faut pas croire que le match contre Metz va être gagné. Parce que ouais, Metz va vendre charmant sa peau. Mais je suis un peu sceptique sur ce que Pierre va dire. Moi, je suis sûr que contre Lille, le Havre est capable de prendre des points. Je suis persuadé, on s'est jamais fait rouler dessus, même par les grosses écuries. Donc moi, je les sens capables d'aller chercher quelque chose contre Lille.
Et si je vous dis, je regarde le classement, je regarde les points, si je vous dis, il manque peut-être qu'une victoire.
Oui. Oui, oui, bah, on essaie de faire des petits comptes d'apothicaire, là, depuis quelques semaines.
J'aime bien ça, moi.
Voilà. Et potentiellement, avec 2 points, déjà, ce serait pas mal.
Ouais, moi, je me dis que s'il y a victoire contre Angers et ou Metz,
oui,
on sera pas loin de la vérité du côté du hack.
On sera vraiment, là, on aura assuré les barrages, quoi qu'il arrive, avec 3 points. Et encore une fois, il faudra attendre les résultats de nos concurrents. Mais oui, ce serait un grand pas fait vers le maintien s'il y a 3 points là dans les 15 jours à venir.
Ouais. On rappelle l'année dernière, oui. Le Hack s'est sauvé avec 34 points.
34, ouais.
À égalité avec Reims, hein, si je me trompe.
33.
Pas.
Non, 33.
Un point de plus. Devant. Et du coup, l'année d'avant, c'était 32. Que le Hack avait eu. Ça avait été un peu plus bas.
Mais là, ça risque même. Enfin, la frontière pour se maintenir directement risque même d'être encore un peu plus faible vu l'allure.
Si on regarde cette moyenne-là, extrapolée sur 34 journées, oui, ça sera. On va pas aller jusqu'à 32.
Hein, effectivement, on peut espérer qu'avec 31, 32 points, pour nous, ça pourrait
l'affaire sous un sac.
Ça pourrait être suffisant pour se maintenir directement, ouais.
Juste avant peut-être de passer à autre chose, je reviens un instant sur Samata et ce que disait Didier Dicard. Il disait l'avantage, c'est que ça va me permettre de m'offrir un peu de tranquillité. On va arrêter de me poser la question pourquoi je le fais jouer. Est-ce qu'on peut faire un parallèle un peu avec ce qui était dit sur Issa Soumaré, par exemple, l'année dernière, qui ensuite s'est révélé, etc. Et que finalement, le coach a toujours ses choix et il a raison de faire ses choix, quoi.
Ouais, après c'est sûr que, enfin, on l'espère tous, hein, que ce but va être l'élément déclencheur. S'il peut finir la saison avec 5-6 buts, bah nous voilà, on est que preneurs. Mais après c'est vrai qu'on a quand même longtemps douté sur ses facultés de buteur, parce qu'il était décrit comme un buteur quand il est arrivé. C'est quelqu'un qui met des buts.
Il y a longtemps quand même. Ouais. Si je peux me permettre, hein, sans vouloir je vais pas le blâmer, mais
en faisant
les petites recherches avant l'émission, ces belles saisons sont derrière lui quand même. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais nous, on s'est dit bon bah ça y est, c'est le buteur qu'on espère tant, et finalement quand on regarde les stats, les stats parlent d'elles-mêmes. Hein.
Ouais.
Après il a toujours eu le soutien, en tout cas du public et de la tribune. On a vu tout de suite que c'était un joueur qui se battait, qui mouillait le maillot. Effectivement, il nous a été vendu comme ça, comme quelqu'un de sérieux. C'est ce que Digard a dit en conférence de presse après le match, qu'il était apprécié par tout le groupe. Et ça, on n'en doute pas. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir qu'il débloque enfin cette situation. Voilà, ça doit débloquer un peu quelque chose dans sa tête. Et Soumaré, l'année dernière, avait été très bon justement sur cette phase hyper importante de fin de saison pour nous. On espère que Samata suivra cet exemple et nous mettra 2, 3, 4 buts très importants pour nous avant la fin de la saison.
Mon objectif, c'est il est toujours là. C'est tant que c'est pas acquis, je mets pas ma tête un peu partout. J'essaie de rester concentré, c'est le plus important. J'y penserai que quand j'aurai atteint mon objectif, peut-être. En tout cas, j'espère. Mais pour l'instant, franchement, ma tête, elle est que ici.
Dans le débrief 100%, que vous aurez sans doute reconnu, Aruna Sanganté, capitaine des Ciels et Marines, c'était en conf de presse d'avant-match le 3 avril, avant la réception d'Auxerre. Il répondait évidemment à une question sur son potentiel futur contrat au Séville FC, contrat qui aurait depuis été signé selon le journal L'Équipe. Le défenseur havrais qui s'engagerait donc pour 5 ans en Andalousie, puisqu'aucun des deux clubs, je crois, n'a officialisé cette arrivée, ni le Hack, ni Séville. L'Andalousie qui rejoindrait donc en fin de saison. Alors on rappelle qu'il arrive en fin de contrat au HAC, ça veut dire pas d'indemnité de transfert évidemment pour le Havre, son club formateur. Est-ce que c'est pas un peu dommage? Est-ce que voilà, Mehdi, je vous vois faire la grimace.
Ouais, c'est pour nous c'est un petit peu dommage, parce que voilà, formé ici, il part sans indemnité, mais après on peut pas le blâmer parce que ça a toujours été un soldat. Voilà, il a toujours défendu les couleurs ciel et marine, fermement, voilà, sur le terrain parfois un peu trop, mais
franchement, viril, mais correct.
Voilà, mais il a toujours été proche des supporters, il a toujours l'amour du HAC, il l'avait, enfin il l'a et je pense qu'il l'aura toujours. Donc c'est vrai que partir pour zéro, nous ça nous fait un petit peu mal, parce qu'on sait que ça aurait pu être une valeur marchande qui est une rentrée d'argent qui aurait été intéressante pour nous. Mais après, personnellement, moi, je pense qu'il a fait aussi son temps et qu'il a besoin de voir autre chose. Et moi, je le remercie clairement pour ce qu'il a fait pour le HAC.
9 années au HAC, dont 5 saisons en pro. Voilà. Et il était le plus jeune capitaine de Ligue 1 à l'époque, hein, quand il a été nommé
impossible,
avec le Brassard.
Impossible de lui en vouloir. Il est là depuis de nombreuses années, comme vous l'avez rappelé. Il a été des derniers combats, l'accession en Ligue 1, les maintiens miraculeux. Il a 23 ans. Il a une proposition d'aller tripler, quadrupler son salaire en Espagne. Enfin voilà, vous me proposez, Célia, de tripler, quadrupler mon salaire demain. Je démissionne dans l'instant. Donc évidemment.
Surtout au soleil en plus.
Au soleil, évidemment. Mais non, impossible de lui en vouloir. On voit toujours d'un prisme un peu particulier ces histoires de départ de joueurs. C'est pas forcément de la faute du joueur. Hein. C'est peut-être aussi la faute du club qui a mal géré sa fin de contrat. Enfin voilà, après on comprend sa volonté de partir, peut-être que le club aurait pu faire quelque chose aussi pour qu'il puisse rester, on sait que les moyens financiers sont limités, je pense que là tout le monde peut se quitter en bons amis, on dira merci Aruna.
Mathieu, est-ce que finalement c'était possible qu'il re-signe et puis qu'il s'en aille, ou l'année dernière par exemple, et puis qu'il s'en aille, est-ce qu'il avait vraiment intérêt à ça?
À lui non, très clairement, enfin dans le petit de partir en tout
ouais,
cas non,
sûr.
Parce que je pense qu'Aruna Sanganté, même si c'est un bon joueur, qu'il a fait ses preuves en Ligue 1, sa valeur, c'est sa liberté en fait. Et à partir du moment où il est sous contrat, ben je pense pas que le Séville FC ou un autre club va débourser ne serait-ce que 1, 2, 3, 5 millions d'euros, comme le HAC, ses dirigeants et ses supporters, eux l'espèrent. Donc voilà, c'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les clubs un petit peu de la dimension économique du Havre. On l'a vu même dans plein d'autres exemples, et voilà, les joueurs maintenant ils n'hésitent plus à aller au bout de leur contrat parce qu'ils savent très bien que financièrement c'est dans leur intérêt.
Il y a des grosses primes à la signature généralement.
Grosses primes,
un
meilleur salaire qui peut se négocier, des meilleurs clubs, hein, parce que on rappelle que donc l'année dernière il y avait une offre de Midtjylland au Danemark, hein, je crois, pour Aruna Sanganté.
L'été dernier.
Avec tout le respect que j'ai pour Midtjylland qui joue la Coupe d'Europe, mais entre Séville et Midtjylland. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas trop d'hésitation sur le choix.
Septuple champion,
voilà.
C'est ça, ou vainqueur de la...
Je vois que vous êtes calé sur le championnat danois.
J'ai bossé, hein. Ah non,
on va faire 100% Danemark. On va faire 100% Danemark.
Je parle de Séville, moi.
Ah, d'accord. Bon, bah, 100% d'Andalousie, alors. C'est bien aussi. Mais non, alors, par contre, encore une fois, je pense qu'on peut rejoindre les paroles de Pierre et Mehdi sur le fait de pas en vouloir aux joueurs, surtout que c'est pas un mercenaire qui a fait une année ici, qui part, voilà, mais, et on va y revenir, si ce cas se multiplie, ça a posé, je pense, quand même un sérieux problème au HAC dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir.
Bah son cas est effectivement le premier peut-être d'une très très longue liste pour le HAC. Je pense qu'il y a 60-65% du 11 titulaire qui est en fin de contrat. Là cet été, les 2-3 qui restent ont re-signé il y a pas très longtemps et ont des valeurs marchandes qui seraient intéressantes de vendre, donc potentiellement on change tout cet été.
On avait déjà dit ça la saison dernière si je ne m'abuse.
Voilà, oui c'est, mais après si on veut rester à l'équilibre financier, on sait qu'il faut vendre, c'est pas avec les fins de contrat qu'on réussira à ramener de l'argent. Donc ce sera avec les 3-4 valeurs marchandes, Ayoub Mousseko, Ebonog, Kofi, Zagadou, voilà. Et si on vend cela, ça va être compliqué, il faudra tout reconstruire.
Le fait que Gauthier Lloris se soit pas encore engagé, est-ce que vous pensez que qu'une fois que le maintien sera acquis, on pourrait avoir une bonne nouvelle, ou a priori on s'achemine vers un scénario à la Aruna Sanganté?
Moi je pense que on reste un petit peu dans le flou avec Gauthier. Ouais, c'est un petit peu le même cas qu'Aruna. C'est quelqu'un qui est arrivé au HAC, comme a dit Pierre tout à l'heure, monté en Ligue 2, maintien en Ligue 1. Après, c'est vrai que perdre un cadre comme ça serait vraiment compliqué pour nous, parce que c'est un cadre du vestiaire, c'est un
patron sur le terrain.
Un patron sur le terrain, voilà. Donc, s'il y avait une hécatombe de départ, je pense que là, on serait vraiment dans le dur l'an prochain.
Et comment vouloir à Gauthier Lloris également, voilà, comme tu le disais, qui a été de tous les combats. Il a été très nombreuses fois blessé pendant sa carrière. C'est peut-être un dernier contrat là qu'il va aller chercher. On sait qu'il est peut-être appelé aux États-Unis pour rejoindre son frère. Enfin voilà, donc comment lui en vouloir d'aller céder aux sirènes d'un meilleur contrat et d'un pays peut-être un peu plus exotique.
On rappelle du coup donc Aruna Sanganté, Gauthier Lloris, Abdoulaye Touré, même si cette saison il n'a quasiment pas joué, mais il reste un joueur en fin de contrat. Yacine Keshta, Issa Soumaré pour les principaux. Alors je crois qu'il y a aussi Loïc Nego et enfin aussi deux trois autres.
Je crois que Loïc Nego il a bien signé jusqu'en 2028.
Il reste un an encore.
Ouais.
Donc ça fait quand même plusieurs joueurs et effectivement si tous ces joueurs étaient amenés à partir, au-delà du côté financier, c'est vraiment une page qui se tournerait, on va dire, pour ce hack un petit peu moderne, monter en Ligue 1 plus maintien, reconstruire avec plusieurs nouveaux joueurs et plusieurs nouveaux titulaires la saison prochaine.
Ouais, si on faisait le parallèle avec un gouvernement, je pense que le Bodmer 1 serait définitivement terminé et qu'il faudrait partir sur un Bodmer 2.
Quel premier ministre?
Voilà.
Parce qu'il y a aussi
Didier Digard.
c'est ça. Et oui, en plus, il y a Didier Digard. Donc, effectivement, comme Mathieu l'a dit, il y a beaucoup de pointillés, en tout cas, sur cette fin de saison et sur cet été, là, qui arrive. Il va falloir être, comme d'habitude, créatif, avoir de la suite dans les idées, avec 0 €, toujours, parce qu'on sait qu'on dépensera pas 1 €, mais bon, on a confiance quand même en l'équipe dirigeante pour nous sortir une belle équipe pour la saison pro.
Justement, un petit mot sur cet avenir, la saison prochaine, parce que bon, là vraiment la saison, je pense qu'elle est réussie. Certains sont confiants, d'autres un petit peu moins, mais je vais rejoindre la team des confiants pour ma part. Mais comment on envisage la saison d'après? On l'a dit quand même, beaucoup de joueurs cadres en fin de contrat. Didier Ligard aussi. Bon, on peut imaginer qu'on attend ou non le maintien pour que son cas soit statué, enfin en tout cas que lui se prononce sur son cas. Un propriétaire qui investit, enfin pas en tout cas dans l'effectif, qui on l'a dit qui éponge une partie des dettes ou qui se porte caution pour une partie des dettes, mais ça suffira pas pour développer le club. Comment on envisage un petit peu la suite du côté des supporters, Mehdi? Parce que se maintenir c'est bien, mais il faut pas que ça soit non plus une fin en soi, il faut toujours penser à demain. Comment on envisage ça du côté des supporters?
On espère qu'ils vont mettre la main au porte-monnaie du coup. Quand ils sont arrivés, voilà, ils ont épongé les dettes. Maintenant, peut-être qu'il faut sortir pour pouvoir recruter quelque chose, pas recruter avec zéro. Ça serait pour nous, c'est le message qu'on aimerait leur faire passer. Si malheureusement, il y avait tous ces départs qui étaient actés, je pense que on espère, c'est un appel qu'on lance niveau supporter, qu'ils mettent la main au porte-monnaie pour nous sortir une petite enveloppe pour qu'on puisse recruter et de nouveau se maintenir en Ligue 1 si on y est encore.
Ça n'a pas l'air d'être forcément la stratégie envisagée, étant donné qu'on a appris par voie de presse il y a quelques semaines que le propriétaire avait demandé de baisser la masse salariale de 15% sur la saison prochaine. On doit être la plus petite masse salariale de Ligue 1. On doit se situer à la 5-6e place de Ligue 2 en termes de masse salariale, si on y était. C'était déjà compliqué de recruter des joueurs avec les salaires qu'on proposait là. Ça va être encore plus compliqué de proposer des salaires avec l'argent qu'on aura demain. Donc mais effectivement, comme tu le disais, Mathieu, il y a beaucoup de points en suspension. Digard, les joueurs, Bodmer peut-être aussi, on sait jamais.
Qui lui est quand même sous contrat encore jusqu'en 2027.
Ouais. Les contrats ça se casse aussi.
Oui, bien sûr.
Donc si pareil, moi je comprendrais, hein, si il est jeune, il a un super bilan avec le Havre, si jamais un club un peu plus puissant qui lui permette de s'amuser avec quelques millions l'appelait, comment lui en vouloir?
Qui ne sera pas Marseille, ce club.
Non, apparemment non, il s'en est amusé, donc non.
Lui,
tant mieux pour
lui,
nous. En
le
tout
supporter
cas.
Du PSG, oui. Ça serait quand même
compliqué.
J'ai bien que dans le foot, il se passe des choses bizarres, mais quand même là, j'y crois ouais. Moyennas.
Après, si on continue le parallèle avec la vie politique, parfois on change de veste,
on change d'équipe,
ce serait une
peut-être
forte...
les footeux sont plus fidèles que les hommes politiques. Alors, si je peux me permettre de prolonger le parallèle, du coup.
Effectivement.
All right.
se croirait au stade Océane dans le débrief 100%. C'est votre voix, je pense, Mehdi, qu'on entendait haranguer la foule là en tant que capot.
Exactement.
On avait envie d'en savoir plus un petit peu sur les coulisses. C'est quoi votre secret, une pastille Vichy avant les matchs et on...
c'est ça. Je sais pas si je peux dévoiler. Il y a aussi quelques petites bières avant. C'est pour la voix.
Ça va, c'est pour se détendre les cordes vocales et tout. C'est naturel.
C'est médical.
C'est une prescription de son médecin.
Non, il n'y a pas vraiment de secret, c'est l'amour du hack qui me fait me transcender comme ça avant et pendant les matchs. Et ça dure même jusque. Enfin, ça se renouvelle toutes les semaines. Donc voilà, non, c'est vraiment la passion, l'amour du hack qui me fait me transcender le jour des matchs.
Ça a un rôle important quand même, justement, d'être un peu le gars qui entraîne tout le monde.
ouais, ça, c'est un rôle. Qui est primordial, c'est ce qui permet un petit peu à toute la tribune et on aimerait que tout le stade suive aussi, même si parfois c'est un peu compliqué, mais en tout cas cette tribune, ouais, ça fait plusieurs années qu'elle reprend des couleurs et ça c'est un petit peu une fierté pour tout le monde.
J'ai deux choses à demander. Est-ce que c'est pas la plus grande fierté en tant que supporter de voir l'ambiance au stade Océane, quand même, hein, on se rappelle les valeureux 4000 ou 5000 supporters qui restaient la dernière année de Paul Le Guen, par exemple.
Je m'en souviens de celle-là, moi.
On voit ça. Et encore plus, je vais dire aussi, moi, ce que je trouve encore plus marquant, c'est les déplacements de supporters. Celui-là qui me vient en mémoire dans les derniers, hein, mais c'est le Paris FC, bien entendu, où il y a des gens qui venaient au stade Jean Moins qui croyaient que c'était presque les supporters du Paris FC, tellement que vous étiez nombreux. Est-ce que c'est pas ça la plus grande fierté d'un supporter du hack, comme vous pouvez l'être, Mehdi?
Si, ouais, c'est vraiment. Voilà, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons, mais c'est vrai que Pierre aussi les a vécus, mais on a vécu tellement d'années galères en Ligue 2, dans un stade à 4000 personnes, que là, quand on.
Voire moins.
Ouais, voire moins, ouais. Moi, je me rappelle mon premier match en tant que capot, c'était contre Bourg-en-Bresse, on était 3000 dans le stade. Et franchement, là, je peux vous dire que de voir une tribune pleine ou même un stade qui est quasiment plein, pour nous, c'est une réussite parce qu'on se dit, voilà, il y a les résultats, il y a le hack qui a fait que, mais on a aussi bossé pour rendre cette tribune, ce stade qui sonnait vraiment creux au démarrage, que ça soit vraiment, je sais pas, un lieu où on se retrouve et qu'on se sente bien.
Ouais, puis on s'est un peu salué quand même unanimement, même par les observateurs extérieurs qui viennent par exemple qu'une fois parce qu'ils accompagnent l'équipe adverse. Je me posais une question, comment on devient capot du coup?
Alors moi je suis devenu capot à la suite de Chris, donc ça s'est fait un peu naturellement. Chris m'avait dit voilà, je veux que ce soit toi qui prenne la relève, alors que j'étais tout jeune, hein, j'avais 18 ans. Et ça se fait naturellement, j'ai commencé avec lui derrière en train de faire des gestuels, et puis il m'a dit quelques petits bouts de match, je prenais le micro à sa place, et ça s'est fait naturellement. Il m'a dit maintenant c'est ton tour et je reviendrai pas, même si je le vois de temps en temps. Voilà, ça me fait plaisir, mais ça s'est fait un peu naturellement comme ça.
Et on a ça naturellement en soi, du coup.
Au début, ça a été compliqué. Je vous dis, quand on a un stade à 3000 personnes, quand on vous laisse le micro, c'est compliqué. Mais après, on se prend au jeu et puis quand on voit où ça en est devenu, on est plus que fiers.
Et vous voyez 50% du match à peu près, non?
Moins. 5%.
Pas super.
5%. C'est pour ça que c'est hyper beau. C'est un sacrifice, hein, quelque part, ce job-là. Parce que effectivement, Mehdi et les autres voient pas le match et se sacrifient pour l'ambiance. Donc, ouais, c'est un rôle ingrat, mais nécessaire.
Ça veut dire que dans les yeux des autres, vous voyez quand il va se passer un truc, quoi.
C'est ça, ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Quand on voit que ça s'agite un peu, je tourne un petit peu la tête, je regarde ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on voit pas le match, ouais.
Est-ce que vous refaites une rediff du match chez vous ou dans la semaine?
Très très souvent, du coup, pour avoir le rendu sonore à la télé. Des fois, je me dis putain, c'était nul, mais ouais, non, c'est je refais les matchs souvent. Ouais.
Ouais, c'est comme un joueur qui prépare ses matchs. Voilà, on revoit un peu ses performances, on revoit les matchs. Je voulais juste dire un petit mot. Vous faisiez référence au fait que vous aimeriez bien que le reste du stade effectivement suive. Alors c'est vrai que c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Ce qui m'impressionne, c'est les écharpes, hein, parce que là, ouais, il y a vraiment quasiment beaucoup beaucoup de supporters, toutes tribunes confondues, qui ont les écharpes. C'est vrai que c'est pas évident que les autres tribunes, qui sont un petit peu éloignées déjà en termes de distance, et est-ce que ça dépend de vous, est-ce que ça dépend aussi un petit peu des matchs, des scénarios? Par exemple, contre Toulouse, paradoxalement, on faisait référence, mais ce rouge direct où tout de suite on a senti une équipe qui était capable de le faire malgré tout, à 10 contre 11, on a senti quand même que les gens avaient tendance à plus s'enflammer pour ce match-là du coup.
Ouais, ouais, c'est vrai, la physionomie du match joue beaucoup aussi. Quand Le Havre, voilà, Le Havre prend un carton rouge d'entrée, on sent quelque chose à faire. Du coup, on sentait qu'il y avait vraiment, c'était le stade était en fusion.
Ouais,
on sentait
parce qu'une solidarité ouais, entre les supporters avec l'équipe, quoi.
C'est ce qu'on a ressenti aussi. Hein, bah, je pense que Pierre est de mon avis contre Toulouse. On avait vraiment, moi, je trouvais que c'était une des plus belles ambiances que j'avais vues au stade Océane. Bien sûr, il y a les matchs de la montée, etc. Mmh. Mais ce match contre Toulouse, moi, franchement, ça m'avait vraiment impressionné. Parce que ça, tout ça le stade techno, ouais, c'est ça, exactement.
Ça soude rapidement, effectivement, un fait de jeu contraire comme ça, dès la première minute. On se dit que bon, on n'a plus rien à faire qu'à part voilà encourager notre équipe jusqu'à la fin, plus que de raison. Et ça nous a souri sur ce match puisqu'on finit par l'emporter. Et effectivement, comme le disait Midi, la physionomie du match peut vraiment influencer la réaction du public. On l'a vu sur certains matchs, notamment sur certaines fins de match où le public a effectivement plus donné de la voix que d'habitude parce qu'elle sentait que le public sentait que c'était possible.
Votre plus belle émotion de supporter ?
Il y a la montée fin du match contre Dijon là, mais il y a aussi ce match du maintien à Strasbourg, la Panenka d'Abdoulaye. Et j'en ai un qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'est la remontée en Ligue 1. On était 600 à Marseille, on avait fait un des plus gros parkages de Ligue 1 au Vélodrome, et je pense que là c'était vraiment quelque chose qui est voilà une petite fierté, mais c'est quand même beau. On arrive à se déplacer à 600 au Vélodrome. Et là, c'était vraiment sympa.
Pierre, même question ?
Ben, j'ai mis longtemps à essayer de répondre moi-même à cette question. Et je pense qu'effectivement, je vais dire le maintien de l'année dernière. J'attendais vraiment de redescendre en pression par rapport à ce qui s'était passé. Parce que si vous m'aviez posé la question le lendemain, évidemment que j'aurais répondu le maintien et la Panenka d'Abdoulaye Touré. Mais je crois vraiment que c'est en termes d'émotion. Voilà, la plus grosse émotion que le HAC m'ait jamais apportée.
Vous auriez en état de répondre à la question le lendemain du match de Strasbourg ?
C'est vrai, peut-être le surlendemain alors.
Je pense qu'on est tous pareils.
Moi, c'était le jour férié normalement. Je pense qu'Edouard Philippe aura dû prononcer un jour férié pour tous les supporters du HAC.
C'est vrai.
Voilà, comme ça se fait des fois.
Le 9 mai 2025.
Dans certains pays, quand il y a des qualifications pour la Coupe du Monde et tout.
Je sais pas si on peut férieriser les journées municipales.
Voilà. C'est ça.
Rien
c'est
ça. Chez nous, c'est férié.
Il y a ça dans certains coins.
Particularité locale. Ça aurait pu être pas mal.
Ouais. Moi, je voulais juste votre avis sur une petite actu du moment, on va dire, puisqu'on a entendu pour la première fois un arbitre s'exprimer dans le stade. Pour le match Lyon-Lorient la dimanche dernier pour alors dispositif expérimental qui avait déjà été expérimenté en réalité pour PSG-Toulouse, mais il n'y avait pas eu de recours à la VAR, donc on n'avait pas entendu l'arbitre. Vous en pensez quoi ? Bonne nouvelle ou ça fait un peu gadget ou... Alors on rappelle que ça existe depuis des années au rugby notamment, mais...
Non, moi je trouve que c'est intéressant parce que des fois on se pose des questions sur les décisions de l'arbitre, et là du coup du fait qu'on ait son ressenti, bah je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est intéressant, et puis ça évite des fois les mots qu'on peut entendre dans certaines tribunes, des fois c'est pas toujours cool.
C'est c'est vrai, même avec le micro il y aura plus ces mots là
ça je peux pas vous le garantir.
Ouais, quant à moi, non, je trouve ça complètement gadget. De toute façon, bon, après j'ai une position là-dessus qui est un peu radicale. Je suis un anti-VAR. Voilà, j'estime que le foot et que le sport est le reflet de la société. Et parfois le sport se trompe et a le droit de se tromper.
Puis ça permet de se qualifier pour une Coupe du Monde parfois. Donc
voilà, c'est ça. Bon, dans ces conditions-là, c'est vraiment moche. Mais bon, après il y a... Voilà pourquoi la main de Dieu de Maradona est autant connue, c'est parce que voilà, il n'y avait pas eu de VAR, sinon elle n'aurait jamais été aussi mythique. Et des exemples comme ça, j'en ai 10 000. Et puis moi, je viens pas au stade, très sincèrement, pour comprendre ce qui se passe sur place. Voilà, moi, je viens au stade pour encourager mon équipe. Et si jamais j'ai pas compris, je regarde le match à la télé avec les commentaires, avec les ralentis, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais dans le match, non, je trouve que ça a pas grand intérêt. Et puis nous, au stade, de toute façon, là, dans le COP, on n'a plus d'enceinte depuis 3-4 matchs, donc on n'entend rien.
C'est la crise.
Donc ça ne changera rien.
Bon, bah, c'est comme quoi, voilà, chacun voilà. Un avis.
Jeff, il faut aussi investir un peu dans le stade, visiblement. Il y a quelques fuites aussi, si je peux me permettre.
Ah oui,
je crois qu'il est au courant.
Ouais, c'est vrai. Avant de se quitter, on va jeter un œil, comme d'habitude, ou plutôt une oreille pour ceux qui nous écoutent sur les résultats des autres formations du HAC. Alors, pas de match avant le mercredi 22 avril. Hein, pour les féminines, ce sera face à Lens, qui est lanterne rouge, je crois, de d'Arkema Première Ligue.
Plutôt premier relégable, si premier je me trompe pas. Okay. Et c'est le match très important parce que le maintien n'est pas encore assuré.
Toujours pas.
Même s'il est en bonne voie. Mm-hmm. Mais grosso modo, si ça gagne du côté du HAC, bah, c'est maintien dans la poche. Par contre, en cas de contre-performance, ça serait totalement relancé pour la fin de saison. Et donc, attention, c'est vraiment un match important. Donc, attention quand même sur ce match-là.
Est-ce qu'on pourrait voir le coq masculin venir un peu
c'est envisageable, mais c'est pas toujours facile parce que on se donne déjà énormément sur les matchs à domicile avec le groupe de supporters. Donc après, on l'a fait. On est venu les dernières deux fois, mais c'est pas toujours simple.
Chez les jeunes, Kenny Kétan et Noam Obougou qui n'étaient pas retenus dans le groupe pour aller à Nice, et bien ils ont fait le bonheur de la réserve. Un but chacun dimanche, score final 2-1, c'était face à Saint-Marcel. Les Havrais qui remontent à la quatrième place de leur groupe en U19. Une victoire qui donne un peu d'air au groupe de Jair Karam, 2-0 face au Paris FC avec un grand Alex Texera dans les buts. Ça promet du coup pour les prochaines années. Le Havre est 9e avec 5 points d'avance sur la zone rouge. Et puis les U17 battus 4-1 par Le Mans, match qui était donc à oublier pour les Bézos qui sont 11e. Un dernier mot sur les filles en U19, victoire 4-0 sur la pelouse de QRM avec 4 buts inscrits en seconde période. Au classement, elles sont 2e de leur groupe, dominées par le Stade Rennais qui a 2 points d'avance. Et les filles qui vont, avant de retrouver le championnat, vont disputer les demi-finales de la Coupe Nike U18 face au Stade de Reims. Ce sera dimanche. Un grand merci, messieurs,
d'être venus
pour la première fois dans le débrief 100% HAC. Mehdi, on vous entend donc dans les tribunes. Pierre, on vous retrouve aussi dans votre podcast dans le pot de yaourt.
Oui, c'est vrai.
Vous interrogez des Havrais. Et puis, salut évidemment Mathieu Billot de Foot Normand, partenaire de ce podcast. On vous lit dans footnormand.fr, sur footnormand.fr plutôt. Je signale que Luc Gallet est en congé bien mérité, mais que vous retrouvez évidemment cet épisode sur lecourriercauchois.fr. Prochain match du HAC, ce sera samedi 18 avril, 19h à Angers. Un match un samedi soir, ça change un petit peu. Fin de partie, merci à tous et à très vite pour un nouveau débrief.